Arthur Frindin. Bonjour Arthur.
Des habitants privés d'eau potable après les fortes pluies qui se sont abattues sur plusieurs régions de France cette semaine. L'heure est à la débrouille. Au nord d'Alès, dans le Gard, l'eau est trop trouble à la Grand Combe et dans les communes alentours. Alors en attendant le retour à la normale, l'agglomération d'Alès fait livrer des packs d'eau. Reportage Ludovic Labastrou, France Bleu Gard Lozère.
La Grand Combe, Branousse, les Taillades et les Salles du Gardon privées d'eau potable.
Elle est un peu marron, hein. Chez nous c'est léger quand même. Mais on évite de la boire parce qu'on nous a prévenu qu'il fallait éviter, il fallait même éviter de se laver les dents avec.
De l'eau trouble, c'est assez commun lors des épisodes pluvieux orageux. Alès Agglomération a donc disposé à la Grand Combe une citerne de 12 mètres cubes d'eau et livré 61 palettes, soit 30 000 bouteilles.
Vous habitez sur la Grand Combe ?
C'est pour une dame qui habite au Pelouse. Vous croyez que je peux lui prendre parce qu'elle est âgée ou il faut que je revienne avec des papiers ?
Non, si c'est pour une dame qui ne peut pas se déplacer, oui, on vous le donne, bien sûr.
D'accord, c'est bon.
Merci, au revoir.
Je vous en prie, au revoir.
On fait que pour récupérer ces packs de 6.
Ça va être suffisant ?
Eh bien écoutez, déjà c'est pas mal, je suis content, je pensais qu'on allait m'en donner 2. Donc après, on a toujours un pack d'avance à la maison.
On voit pas toute cette eau aussi, non ?
Après la peur de la colère du ciel, l'eau minérale qui redonne enfin le sourire.
J'en ai pris 2, voilà, comme ça je suis tranquille. Hein. Il ne me semble que 2 à la maison.
Il restera un peu d'eau pour le pastis ?
C'est-à-dire que non, je vais boire le pastis sec et puis l'eau après.
L'ARS, l'Agence Régionale de Santé, fait des analyses toutes les 4 heures pour mesurer une turbidité acceptable. Retour à la normale espéré ce lundi.
Et un département reste placé en vigilance orange au cru aujourd'hui, la Gironde. Le niveau de la Garonne est en train de monter autour de Bordeaux. Journée d'hommage dans 128 communes de France après la mort d'un cycliste mardi à Paris, renversé par un automobiliste. Des minutes de silence sont prévues à 17h45 devant les mairies de Poitiers, Lille ou encore Bayonne. Un policier blessé par balle lors d'une intervention hier soir à Saint-Herblain, près de Nantes. Il a reçu une trentaine de plombs lors d'une intervention qui a dégénéré après un signalement selon lequel un homme brandissait une arme de chasse. Bruno Gallet, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance 44.
Mes collègues se déplacent, ils tentent de prendre contact avec cet individu qui leur lance immédiatement son chien sur eux. Les collègues neutralisent le chien par arme. L'individu part se retrancher dans une caravane, ressort immédiatement et tire sur mes collègues. Ça pourrait faire de blesser l'un de mes collègues, s'effondre immédiatement au sol. L'individu repart immédiatement dans la caravane. Très rapidement, un périmètre de sécurité est lancé tout autour de la caravane. Très rapidement, dans le même temps, donc mon collègue est pris en charge par les sapeurs-pompiers et les convié au CHU. Et dans un même temps, le RAID est commandé. Le RAID va intervenir et l'interpeller.
Bruno Gallet du syndicat Alliance 44 au micro de France Bleu Loire Océan. Le policier est blessé et sorti de l'hôpital ce matin. Le forcené blessé à la jambe et lui toujours au CHU de Nantes ce midi. Le sport avec d'abord du rugby, 7e journée de top 14 dans 1h30. Bayonne, 10e, reçoit le Racing 92, 9e à Jean Daugé. Ce soir, 21h05, le Stade Toulousain d'Antoine Dupont, 2e, se déplace à Pau, 6e. En Ligue 1 de football, 3 matchs à suivre avec un derby breton en Amuse-Bouche à 17h, Brest-Rennes, avant Saint-Etienne-Lens à 19h et PSG-Strasbourg à 21h. Et puis, si vous en avez assez de jeter vos appareils défectueux, une occasion en or ce week-end avec les Journées Nationales de la Réparation. Plus d'un millier d'événements dans tout le pays. À côté d'Orléans, à Saran, chez Mondial Tissu, diagnostic gratuit pour les machines à coudre. Philippine Thibaudeau.
C'est le moment de faire un test.
Elle est nickel, aucun souci.
La couturière Julie réalise ses points de contrôle. Ils détermineront si, oui ou non, la machine doit aller ensuite en réparation. Ces journées nationales sont surtout l'occasion de rappeler les bons gestes pour entretenir son appareil.
La machine, elle reste dans le placard pendant 6 mois. Puis quand on veut la sortir pour faire un ourlet, bah du coup, soit c'est un peu grippé, soit c'est la couturière qui sait plus trop comment ça s'enfile. C'est parfois très rapide à déterminer où est-ce qu'il y a un problème. Allô, c'est le magasin Mondial Tissu, c'est pour votre machine à coudre, monsieur. Elle est prête, vous pouvez venir la chercher.
Quand Josette, une cliente, passe le pas de la porte, elle découvre le panneau où il est écrit Journée nationale de la réparation.
C'est aujourd'hui réparation, quoi, une machine à coudre.
Une pensé. Très bonne initiative pour cette retraitée.
Moi, j'ai une machine à coudre qui fonctionne pas bien, c'est la tension à mon avis. Et voilà, ça serait bien qu'elle soit révisée.
C'est la deuxième année pour ces Journées nationales, deuxième année aussi de participation de Mondial Tissu. Nadia, responsable du magasin de Saran.
Vu qu'on en parle beaucoup pendant ces 3 jours-là.
jour-là, ben nous, c'est l'occasion vraiment de sensibiliser pour que les clientes ne jettent pas et pour qu'elles puissent réparer elles-mêmes.
Lors d'un atelier de réparation, par exemple, organisé aujourd'hui au magasin, pour apprendre à recoudre un trou dans un pull ou raccommoder une fermeture éclair.
Le reportage de Philippine Thibaudeau, France Bleu Orléans.
FranceBleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.
La météo de l'après-midi, nuageux sur une moitié ouest de la Normandie aux confins des Pyrénées, en passant par le centre Val-de-Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin. Nuage aussi sur la Champagne-Ardenne, quelques risques d'orages et d'averses sur la Corse. Partout ailleurs, temps plus calme, quelques rayons de soleil sur la Bourgogne, la région lyonnaise, l'arc méditerranéen bien arrosé par le soleil. Quelques bonnes rafales de vent à 60-70 km/h sur la Bretagne et la Manche. Les températures maximales entre 13 et 22 degrés, 13 à Aurillac, 15 à Lille et Amiens, 17 à Lyon, 18 à Rennes.
France Bleu, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Salut à tous, dans le rétro, nouvelle balade dans le temps. Chaque semaine, on revient sur la carrière d'un invité, sur des moments importants de sa vie, à l'origine de ce qu'il est devenu. Ce chemin, il est différent pour chacun, mais il est semé d'embûches, de questionnements, de succès, de fierté, de douleurs qui peuvent parfois nous rassembler, parce que finalement, on se pose tous les mêmes questions. Aujourd'hui, nous sommes avec un acteur sensible et sincère, un homme drôle et droit, un fouteur de bordel aussi, un sale gosse, attachant et touchant. Bonjour mon petit bichon.
Bonjour Déborah.
Mon petit bichon, c'est comme ça que vos parents vous appellent, non? C'est pas ça.
C'est comme ça que mes parents m'appelaient.
Là,
bah, vous avez vu la tête que j'ai, en particulier aujourd'hui, on a du mal à m'appeler bichon. Hein.
Oh non.
Oui, oui.
Michael Youn, vous êtes à l'affiche du nouveau film de Nicolas Vanier, c'est Le Monde à l'envers, avec Eric Elmosnino, Barbara Schultz, Valérie Bonneton, Yannick Noah, François Berléand. Ça raconte la vie d'un trader, Stanislas, que vous interprétez, qui se réfugie avec sa famille dans une exploitation agricole déjà occupée. Alors pourquoi il quitte Paris? Parce que c'est la crise. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de réseau internet, plus de thunes. L'économie se casse la gueule. C'est plus le monde à l'envers, c'est carrément la fin du monde. On y croirait presque à ce scénario catastrophe, hein.
C'est une dystopie qui n'est pas si loin quand même de ce qu'on est en train de vivre. C'est ce que disait Nicolas, c'est qu'entre le moment où il a écrit le bouquin, qu'il l'a transposé dans un scénario, qu'on l'a tourné et que maintenant on le sort, ça va tellement vite que le monde qu'il a imaginé est malheureusement de plus en plus probable.
Cette situation chaotique de départ, on l'a un peu vécu même au moment du Covid quand même, hein ? Est-ce qu'on en a tiré des leçons de ça, finalement?
On s'est tous dit, au moment du Covid, mais finalement, c'est pas plus mal de vivre un petit peu plus tranquillement, plus harmonieusement. Il y en a beaucoup, ceux qui avaient la chance d'avoir des résidences secondaires, qui sont partis vivre à la campagne pendant ce moment-là, puisqu'on avait 48 heures pour se dépêcher d'aller se mettre dans un endroit. Et le lendemain de la fin du Covid, on a tous repris des avions.
Tout est reparti en vrille, en fait.
Mais oui, parce que je suis pas meilleur que les autres et je suis pas meilleur que les auditeurs en ce moment qui doivent se dire, lui, pour qui il se prend? Mais c'est vrai que l'homme n'a pas de mémoire.
Ouais.
L'homme, on s'en rend compte même dans l'histoire, dans tout ce qui peut se passer aussi d'un point de vue politique. L'homme n'a pas de mémoire. Mais la planète, elle en a et elle va nous le rappeler à un moment et ce sera trop tard.
Stanislas et sa famille vont donc cohabiter avec la famille de Patrick, famille d'agriculteurs. C'est un film sur l'entraide aussi, la solidarité, la générosité. À un moment, vous rencontrez une famille apparemment désintéressée sur votre route, mais vous dites, cette générosité, elle n'était pas normale. Pour vous, on est généreux, la naissance, on est généreux, c'est un trait de personnalité ou on le devient et c'est un apprentissage, mais la générosité.
Aujourd'hui, être gentil, lui il est gentil, hein. C'est presque devenu un reproche d'être gentil. Et comme j'ai l'impression d'être gentil, ça fait un petit peu de la peine. Mais c'est surtout mon personnage qui est un cynique. Justement, il ne peut pas imaginer que des gens spontanément décident de partager.
Ouais.
Alors. Alors après, pour fréquenter aussi des bénévoles avec les Restos du Cœur toute l'année, je peux vous dire que la gentillesse, elle existe et que la France, on est toujours en train de s'auto-bâcher, de s'auto-critiquer. La France est le pays au monde qui, par habitant, donne le plus aux associations caritatives.
Ouais,
donc le milieu associatif, il fonctionne de ouf en France, même si c'est pas terrible cette expression de ouf. Mais voilà, faut le souligner parce qu'on fait aussi plein de trucs bien.
Michael Youn, dans C'est le monde à l'envers, Patrick, joué par Eric Elmosnino, vous dit « On a trop tiré sur la terre, les paysans ne peuvent plus nourrir personne, même plus leur famille, c'est rendement, rendement, rendement. » C'est un film, ok, mais c'est la réalité aussi, je pense aux agriculteurs notamment, qui nous écoutent, qui sont nombreux sur France Bleu. Est-ce que vous trouvez qu'on les méprise?
Non. Alors qu'eux se sentent méprisés, ça je le comprends, que les pouvoirs publics, certains politiques et certains gouvernements ne soient pas à leur écoute, c'est une évidence. Mais maintenant, ils sont à l'écoute de qui ? Ils sont à l'écoute de pas grand monde. Il y a vraiment une fracture aujourd'hui entre le monde politique et les citoyens, et on a vraiment l'impression que, quelle que soit la couleur de leur étiquette, on n'a pas l'impression d'être écoutés et qu'ils sont vraiment là, effectivement, pour leur paroisse. Maintenant, ce que j'ai appris, alors ça n'a rien à voir, mais moi j'étais sidéré parce que j'y pensais pas. On a vraiment l'impression qu'il y a les rats des villes et les rats des champs, et c'est vraiment le cas dans le film. Et on se dit que le rat des champs, forcément, il est plus en harmonie avec la nature, il la comprend mieux. Et bah pas du tout, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'agriculture est polluante. L'agriculture fait du mal, non pas parce que les gars travaillent mal, mais parce qu'on leur tape sur la tête, effectivement, et qu'ils gagnent de moins en moins leur vie et qu'ils ont besoin de produire de plus en plus. Et c'est pas pour rien que c'est une des professions où il y a le plus de suicides. Il va falloir qu'on produisent mieux, un peu moins et mieux.
Et c'est effectivement ce qu'on comprend aussi dans le film. On se pose beaucoup de questions à la sortie du film. On a envie de vivre mieux, de prendre plus le temps aussi, de partager, d'échanger. Dans cette atmosphère chaotique où tout est inversé, il y a les deux familles donc, que tout oppose, qui doivent apprendre à cohabiter pour survivre, peut-être reconstruire ensemble un nouveau monde. Le nouveau monde, Michael Youn, vous l'imaginez comment ?
Ça ne va pas être une réponse de lâche, ni de père lâche, mais le plus difficile, sans vous demander quelle année vous êtes née, Déborah, mais c'est pour notre génération, parce que nous, on doit changer nos réflexes. Nos parents vont mourir avec ces anciens réflexes. Ils ont découvert la consommation, mes parents. Ils sont nés pauvres, ils ont évolué ensuite vers une classe moyenne, puis même CSP+. Ma mère, je me souviens, la première fois où au supermarché, elle avait acheté des nems qui étaient dans un emballage plastique, qu'elle l'a gardé pendant 6 ans, l'emballage plastique, parce que ça coûtait moins cher qu'un tupperware, société qui a d'ailleurs depuis déposé le bilan. Donc voilà, mes parents, tous les emballages, ils les gardent. Donc eux, ils vont mourir avec ces mauvais réflexes. Nous, on doit changer les nôtres. En revanche, mes enfants, moi j'ai des enfants, je vois qu'ils sont, nés, comme en plus, ils sont hyper connectés dans tous les sens, ils savent ce qui se passe. Et avec l'intelligence et la technologie qui va nous aider, elle n'est pas là que pour nous poser des problèmes, cette nouvelle technologie, les solutions... Je crois qu'elles vont venir. Alors c'est un peu facile de dire ça.
C'est plus dur pour nous, finalement. On est un peu le cul entre deux chaises.
Et puis c'est même sur le sexisme, etc. C'est à notre génération de comprendre qu'il y a des choses qui ne se font plus. Ouais. Voilà, moi j'ai essayé d'expliquer à des camarades acteurs qu'on ne peut pas dire bonjour à une assistante caméra, lui touche sur les fesses. Voilà, c'est terminé ça.
Michael Youn, dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. C'est la phrase d'accroche de cette comédie signée Nicolas Vanier, avec cette question qui nous fait nous interroger vers quoi on court. Vous aurez peut-être la réponse en sortant de la salle de ciné. Ce film, c'est une réflexion sur notre monde, sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons être ou devenir. C'est vouloir vivre et non pas survivre. C'est Le Monde à l'envers avec Eric Elmosnino, Yannick Noah, Barbara Schulz, Valérie Bonneton et Michael Youn. Michael, notre invité sur France Bleu.
Sur une chaise, les chounelles du matin, les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. En déjeuner en paix. du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant. Elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix.
Écoutez France Bleu, notre invité aujourd'hui c'est Mickaël Youn.
France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
Allez go, on démarre notre voyage dans le temps. Pourquoi vous rigolez?
Bah parce qu'avec la musique, je sais que c'est... je vois à peu près où on va aller. Quoi.
Alors on va aller où?
Bah ça c'est l'enfance, non?
Ouais.
Ouais, bah ouais.
Vous naissez en région parisienne à l'hôpital Foch à Suresnes, une mère responsable du personnel, un père prof de maths, puis psychologue en entreprise. Un papa psy, est-ce que ça permet d'avoir une parole libérée à la maison?
Pas du tout. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors, mon père parlait beaucoup de comportement, de psychologie à la maison, mais c'est pas pour ça que on n'était pas une famille comme toutes les autres. Je préfère dire ça parce que je sais que ma mère écoute France Bleu. Une famille comme toutes les autres, dysfonctionnelle, évidemment. Tout le monde est dysfonctionnel. Donc ne vous étonnez pas si vous aussi vous engueulez à la maison, c'est normal. Voilà.
Est-ce qu'on n'essayait pas de chercher le pourquoi des conneries que vous faisiez, par exemple?
Les conneries, je les ai pas faites tout de suite. C'est-à-dire, si on parle de l'enfance, j'étais pas un enfant extrêmement turbulent.
Ah
je
ouais.
suis devenu turbulent à partir à peu près de 12-13 ans, quand j'ai découvert la séduction, les filles, j'allais dire les femmes, j'ai commencé avec les filles, hein, déjà, et je me suis rendu compte que pour attirer leur attention, c'était pas mal de faire le con. Voilà.
Ça marchait?
Bah, so far, so good. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, oui, oui. Oui.
Mickaël Youn, vous êtes un enfant timide. Qu'est-ce qui vous mettait mal à l'aise, en fait?
Comme tout le monde, le regard des autres, le jugement, le fait d'être très souvent un poisson en dehors du bocal.
Pourquoi un poisson en dehors du bocal? Vous sentiez différent ou déconnecté dans le monde dans lequel vous évoluez?
Oui, mais encore aujourd'hui, hein, je vous avouerai que j'ai pas toujours l'impression de vous... Mais je pense qu'on est tous comme ça, je me sens pas différent des autres, mais en tout cas, moi j'éprouve le besoin de dire que je suis un poisson hors du bocal. C'est ce qui fait que je suis un saltimbanque et que d'autres préfèrent travailler ailleurs.
C'est une force.
C'est une force et une faiblesse. Voilà.
Ouais.
C'était comme une carapace. Mmh,
comme beaucoup d'artistes.
Oui, ils ne sont pas différents.
Mickaël Youn, un papa psy. Parlons de santé mentale. On part maintenant en 1991. Vous avez 18 ans, ce sont les fameux 3 jours. Vous passez tout un tas d'examens pour savoir si vous êtes apte, exempté ou réformé du service militaire. Alors ça c'est vous, vous voulez passer pour fou. Vous faites le bruit de moto à chaque test. Au moment des tests audio, vous dites « Ouais, j'entends rien, j'ai mon casque ». Résultat, P4, vous passez pour fou. Vous êtes donc réformé. Le fait que le service militaire soit plus obligatoire aujourd'hui, c'est une bonne chose pour vous ou pas?
Oui et non. Oui, parce que je pense que plus le monde va vers moins d'armes, moins d'armées, mieux ce sera. Les événements actuels du Proche-Orient sont évidemment là, malheureusement pour nous le dire. En revanche, je pense qu'un service civil, peut-être qu'à l'époque j'aurais dit oui à un service civil. J'étais extrêmement rebelle, donc c'est pour ça que je ne vais pas crâner. Je ne sais pas si j'aurais dit oui, mais en tout cas j'aurais réfléchi un peu plus longtemps. Mon père m'en a beaucoup voulu d'avoir été réformé P4. Il m'a dit, pendant quasiment 6 mois, il ne m'adressait plus la parole. Parce qu'il m'a dit, moi la France m'a tellement donné, et toi c'est comme ça, que tu la remercies alors que tu pouvais la remercier. Et je comprends aujourd'hui.
À quoi servait le service militaire ? Réponse pendant un reportage justement consacré au service militaire. On était dans les années 80.
Nous développons leur qualité sportive, leur qualité collective, leur qualité de résistance et également leur responsabilité. Et je pense qu'ils sortent de là un peu plus mûrs.
Soldat Garcia, 11e compagnie, 3e section, vos ordres sergent.
Repos. C'était la vie en groupe et aujourd'hui les réseaux sociaux c'est la vie en groupe mais tout seul. Donc il n'y avait pas
et
du
planqué.
Tout en groupe. Et planqué, oui. Planqué dans l'anonymat.
Ouais.
Voilà. À dire des saloperies parfois.
Je sens que ça vous agace, ça.
Non, il y a un truc, j'aimerais si j'avais un peu plus de temps, mais il faudrait que je m'y mette vraiment. Ouais. Je voudrais vraiment essayer de faire un truc contre l'anonymat des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est le terreau de tout. C'est le terreau de la pédopornographie, c'est le terreau du racisme, de l'antisémitisme, de la violence, de la haine. C'est le terreau de tout. Moi, par exemple, je ne suis pas anonyme sur les réseaux sociaux. Parce qu'on voit que sur X ou sur Insta, bah, je m'appelle Michael Youn. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Je comprends pas. C'est que quand on loue une voiture, on a quand même besoin de donner son permis de conduire. On sait qui c'est. Et pour s'exprimer, en revanche, on n'a pas besoin d'identité. Je trouve ça limite, en fait.
Ça vous touche, justement, ce qu'on peut lire parfois sur les réseaux sociaux? Ça vous atteint?
Ah, mais là, j'y vais même plus. Je vais même plus lire ce qui se passe. Pas sur moi, parce que ça, sur moi, de toute façon, j'ai décidé un jour où j'ai pété les plombs, justement, sur les réactions, j'ai décidé de ne plus lire ce qu'on écrivait, disait sur moi, que ce soit en bien ou en mal. Voilà. Le truc, c'est que je ne lis pas non plus ce qui est positif. En revanche, je vais lire parfois, sous certains articles ou certains extraits d'émissions de radio, je vais lire les commentaires parce que j'essaye de comprendre...
Le monde.
Voilà. Et en fait, bon, bah, je vous apprends rien. On est quand même à la maison de la radio, sur France Bleu. Voilà, il n'y a que deux couleurs maintenant. Tout le monde est bipolaire. On n'a plus que deux façons de penser et on a perdu la nuance. Et c'est terrible. On ne peut même plus exprimer la nuance. Et à l'occasion de ce qui se passe au Proche-Orient, j'ai remarqué que mes camarades qui s'expriment sur la situation, que ce soit, j'ose même pas dire les mots, que ce soit un peu plus par là ou un peu plus par là, à partir du moment où ils parlent avec de la nuance, sous prétexte que le sujet n'est pas nuancé, plus rien n'est possible, c'est quel que soit ce qu'on dit. Mais bon, c'était pour mettre le projecteur sur la nuance.
Est-ce que vous trouvez que les enfants sont ingrats avec leurs parents, parfois?
Forcément, c'est ce que disait Freud. Hein. Quoi que vous fassiez, de toute façon, vous le faites mal. Hein. Donc, ne cassez pas. Hein.
Michael Youn, en parlant d'ingratitude, justement, il y a un truc pas cool. Vous prenez pas assez de nouvelles de vos parents, si on en croit un des SMS de votre maman? J'ai l'impression que tu prendrais davantage de nouvelles de nous si on était un colis Amazon.
On est très 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 intime avec ma mère. On a vraiment fait ce parcours ensemble. Ce parcours.
Quel parcours?
Mon parcours professionnel du début jusqu'à maintenant. Elle m'a accompagné parce que je suis. Quel est le mot vous devez savoir quand on est on rejette tout ce qui est administratif.
Phobie administrative.
Oui, mais il doit y avoir un mot compliqué.
Ah, vous croyez,
voilà. Mais en tout cas,
administrophobe.
Voilà, je suis administrophobe, donc.
Ah, la maman, ça sert.
Ah, bon, non. Et puis, souvent, je dis, ma mère, c'est comme une mère juive, mais en pire, parce qu'elle est même pas juive. Puisqu'elle est catho, ma mère. Et je sais plus quelle était votre question. Pardon.
Non, mais justement, c'était juste une anecdote que je trouvais marrante. Je trouvais qu'elle avait du répondant.
Ah oui, alors ça, oui, ça.
Et les parents, de toute façon, on les appelle jamais assez. On donne jamais assez de nouvelles, de toute façon.
De temps en temps, alors parfois je lui donne pas assez de nouvelles, puis parfois quand justement je l'appelle beaucoup sur un sujet particulier, elle aimerait bien que je lui foute la paix.
Michael Youn, vous restez avec nous, on revient dans un instant sur France Bleu.
Salut, c'est Dany Briand. Samedi soir, je m'occupe de la playlist.
La playlist de Dany Briand, uniquement sur France Bleu.
Il y aura du Sinatra, mais aussi du Elvis Presley.
La playlist de Dany Briand.
Alors rendez-vous ce samedi à 20h sur France Bleu.
France Bleu, partenaire du Montreux Comédie, la tournée. Pour la première fois, le plus grand festival d'humour francophone part en tournée dans toute la France. Poussé par Jérémy Crêteville, la troupe de 8 humoristes dévoilera plus que ses talents comiques en osant la danse, la musique, les claquettes. Tous les ingrédients sont au rendez-vous pour une livraison de rire à domicile. Le Montreux Comédie, en tournée dans toute la France, avec France Bleu. Actu locale, musique et bonne humeur,
c'est ici, sur France Bleu.
Les grandes barres de béton redeviendront sable, le ciel s'ouvrira sur un idéal. Ça normal, des armes de fer, on fera des fleurs, on mettra du cœur. écrivant ce livre dès la première ligne. Chapitre 1, l'humanité. Chapitre 2, l'humanité. Chapitre 3, l'humanité. On est les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. On croquera la pomme, c'est nous les nouveaux dieux. Nouveaux locataires, qu'est-ce qu'on fera mieux? De l'eau, de la terre, de l'air et du feu.
Des larmes de guerre, séchées au soleil. Des rêves sans frontières, des châteaux de sel.
Au septième jour, Adam et Ève. On fera l'amour, mon amour. On est les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines. Les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Est-ce qu'on fera mieux?
Est-ce qu'on s'aimera
sans semer la haine? Je sais pas.
Il y a dans ton cœur. On est les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire
en déplaçant les ruines comme on l'imagine. On est les derniers humains sur cette terre. Le monde est dans nos bras, il reste toi et moi. Imagine tout ce qu'on pourrait faire en déplaçant les ruines comme on l'imagine. Les derniers humains sur cette terre. Sur cette terre.
France Bleu, merci de votre fidélité. Il est au cinéma en ce moment pour le film C'est le monde à l'envers de Nicolas Vanier. C'est Mickaël Youn, notre invité.
France Bleu, dans le rétro, Déborah Grunewald.
Mickaël Youn, enfant, vous faites quelques bêtises. Vous jetez les affaires d'un pote dans le caniveau. Vous pétez l'armoire de la classe après avoir eu une mauvaise note. Mais vous êtes quand même un bon élève. On part maintenant en 1999. Yeah.
Ouais.
Vous êtes sur le morning de Skyrock avec Catel et Sophie. Vous sortez d'émission. Vous faites le con dans les couloirs. Vous vous pétez une dent. En fait, vous ne vous arrêtez jamais de faire des conneries. À l'époque, le vide, le rien, même le silence peut-être, ça vous fait peur? Il fallait toujours être au taquet.
Et l'envie de prouver, quoi. L'envie de prouver, c'est vrai, j'utilisais les mots justes, même le silence m'était insupportable. D'ailleurs, on dit qu'on est intime avec quelqu'un à partir du moment où on est capable de supporter le silence sans avoir besoin de s'exprimer. Moi, j'ai pas été intime avec beaucoup de gens pendant très très longtemps, oui. De toute façon, j'ai toujours été déjà un peu hyperactif, mais voilà, faut combler les vides, faut occuper l'espace physiquement,
sonoritairement,
bruyamment, en tout voilà. Cas, ça c'est sûr. Étant donné que je suis fils de psy, j'en ai conscience et je me soigne.
On peut se soigner de ça?
Bien sûr.
Bah, regardez, qu'est-ce qu'on
fait? Vous ne me trouvez pas plus harmonieux aujourd'hui?
Tout le monde vous le dit, vous êtes assagi. C'est une question qui revient souvent quand on vous parle.
Assagi, j'aime pas parce que ça, ça voulait dire que petit un, j'étais agité. Et puis assagi, il y a un côté, ça y est, l'enfant terrible, c'est assagi. Il y a un truc qui est positif mais négatif. Vous savez, c'est comme, je vous ai découvert, j'ai eu une agréable surprise. C'est horrible de dire ça. Donc j'avance et je ne suis pas le même que celui que j'étais auparavant. Et à 17 ans, être belle, c'est nécessaire. Elle est encore à 47.
Ouais, c'est bien
j'ai un
aussi.
Peu menti. Non, on peut plus être belle à 47.
Ah bon?
Mais non.
Mais pourquoi?
Parce que il y a des choses plus importantes que vouloir changer le monde à 47 ans. Il y a quoi? Il y a aimer sentir des fleurs, il y a se promener dans la forêt, il y a avoir un chien et lui jeter un bâton.
Bon, c'est pas très rebelle.
Mais justement, parce que il faut laisser la place dans la rébellion à la jeunesse rebelle.
Est-ce qu'ils sont autant rebelles que nos générations?
Ouais. Ah ouais, en ce moment? Nous, on n'était pas une génération très très rebelle. Il y a eu celle des années 70 qui l'était. Nous, on a quand même été une génération plus consumériste que rebelle. Et aujourd'hui, ils remettent pas mal l'église au milieu du village. Hein. C'est parfois violent, mais tant mieux. Moi, je suis content.
Je veux revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, parce que ça m'intéresse vraiment. Comment on arrive après à vivre avec le silence, quand justement, on a toujours eu peur du vide?
Je vous ai un peu écouté. Journaliste, animateur, public, j'ai aussi compris que par moments je faisais trop et que je faisais, à force de faire trop, on fait mal. J'ai aussi entendu tout ça et de dire que j'étais très bruyant et puis c'est juste aussi des histoires d'envie. Mais ça veut pas dire que j'ai plus envie de faire le con et je le fais d'ailleurs très régulièrement. Mais c'est sûr que là, j'ai pas envie de me mettre dans le studio nu sur la table, d'arracher un micro et de dire je ne sais pas quoi.
Mickaël Youn, destination l'an 2000.
Pam pam pam. Pam pam pam.
J'étais fan.
Pam 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 pam. 18 mois.
Ouais, 18 mois. 18 mois. 18
les gens
mois.
Disent, Morning mais t'as live. Fait ça 5 ou 6
ouais,
ans.
Ouais, c'est incroyable.
18 mois. Ouais. J'ai craqué.
Alors, à cette époque, Mickaël Youn, vous animez une émission complètement barrée, le Morning Live, avec Benjamin Morgan et Vincent Desagna, émission culte. Et dans culte, il y a Q, et votre Q est devenu culte. Je voulais faire un petit jeu de mots, c'est nul.
Ça va, je prends. Non,
ouais
je prends.
Ouais, bon, ouais. Ok,
un
d'accord.
Culte. Comme je suis un peu un cuculte, ça tombe bien.
Ah bah c'est super. Vous avez fait marrer et halluciner toute une génération. Parlons de Bernard de Roubaix. Mmh. On est mercredi, il est au standard et passe à l'antenne.
Alors Bernard, je crois que vous n'aimez pas trop notre émission.
Non, pas du tout.
Ah, alors pourquoi hein, on va essayer de
pourrir. Carrément débile.
C'est carrément
débile. Vous êtes vraiment un pauvre con. Je vous vois dans la rue, vous pètez votre tête.
Vous avez regardé un petit peu l'émission depuis la semaine dernière?
Ouais.
Alors qu'est-ce que vous en avez pensé Bernard?
Toujours aussi con. Et j'ai toujours envie de lui faire bouffer de la merde à ce con.
Eh ouais, c'était les haters avant l'heure. Hein.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais, c'était super. À l'époque, j'étais contente de discuter avec eux parce que je trouvais ça exceptionnel. Maintenant que j'ai vu qu'il n'y avait que ça, j'ai plus envie. Quoi.
N'empêche qu'il y a une réflexion à avoir parce que Bernard, au départ, il n'arrête pas de vous démonter la tronche. Puis un jour, il vient sur le plateau, ça se passe super bien. Finalement, on se rend compte que vous, vous n'avez plus envie de l'embêter et que lui, il n'a plus envie de vous insulter. Finalement, est-ce que ce n'est pas ça le but? C'est pour se réconcilier, c'est de se retrouver face à face.
Et puis déjà, oui, c'est ça, de faire connaissance. Je suis hyper surpris sur les plateaux télé de voir les gens d'extrême droite et d'extrême gauche ne pas arriver au bout d'un moment à s'entendre alors qu'ils se voient tout le temps, tous les jours. Ils sont tous, c'est toujours les mêmes sur tous les plateaux. Me dites pas que quand l'émission est terminée, vous n'allez pas boire une bière ensemble. Hein. J'ai du mal à y croire. Enfin bref, je m'égare.
Donc en fait, le fait de se voir, de se parler, ça peut réconcilier les uns et les autres.
C'est QFD.
Non mais j'aimais bien, je voulais laisser un silence.
Ah bah il était bien. Il était bien le silence.
Mickaël Youn, on va poursuivre. Mais ça va, vous l'avez supporté le silence, parce que maintenant vous supportez le silence.
Oui, parce que j'ai trouvé que c'était une belle phrase de conclusion. J'avais pas envie de rajouter un truc derrière. Alors comme vous me regardiez, j'ai dit c'est QFD, mais c'était pas ouf.
Mickaël Youn, on va poursuivre ce voyage dans le temps. À tout de suite sur France Bleu.
S'il te plaît, je voudrais. Qu'est-ce que c'est?
écouter France Bleu en toute franchise, je pense que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire ce week-end. On est d'accord, hein?
Oui, bah, évidemment. Déjà, je suis votre invité.
C'est pour ça. Mickaël Youn est notre invité jusqu'à 14h.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunwald.
Mickaël Youn, c'est la télé et à partir de 2002, c'est la musique aussi.
Enfin, la musique. Non, mais il y a peut-être des musiciens qui nous écoutent. Non.
Ça bouge en régie là.
Ah ouais, 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 effectivement. Et ça qui est là, piano ou nop dans les cages.
Oh maman, dis-moi pourquoi. Oh oui, pourquoi. Je suis né en levant le doigt
comme un connard.
Ça me déprime.
Pourquoi ?
J'ai pris un coup de vieux d'un seul coup.
Oui. Bah alors, rassurez-vous, hein, vous n'êtes pas la seule à me dire ça.
Bah vous aussi, vous prenez un coup de vieux du coup, non ?
Non, parce que non, mais quand vous dites, c'est aussi la musique. Alors souvent, comme j'ai beaucoup de potes musiciens qui m'ont dit, ah, tu peux pas dire ça, t'as quand même fait courou courou stage stage. Tu peux pas dire que tu fais de la musique. Donc j'ai trouvé une formule un peu passe-partout qui marche bien. Alors ça marchait mieux à l'époque où ça existait, puisque maintenant c'est dématérialisé. Mais je disais, moi je fais des disques. Il y en a qui font de la musique. Moi je fais des disques.
Aujourd'hui, Mickaël Youn, pour vous en 2024, c'est quoi un connard ?
Mais ça dépend, parce que le connard de l'époque des 11 commandements, c'était, on se définissait comme des connards avec un seul N, déjà, c'était pas la même orthographe. Et l'idée, c'était un mec qui est libre et qui va faire des conneries, et dont on va dire du mal, mais il s'en fout. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi un connard ? Je dirais avec deux N, c'est celui qui ne considère absolument pas l'autre. Voilà, et il y en a beaucoup, beaucoup.
On part en 2006.
C'est pas ce que tu disais. Parce que moi je veux qu'on voit un biguit, parce que là on sent un petit peu la tricherie.
Tout à l'heure,
voilà.
Nous sommes sur le tournage du single Futa Cagoule, inspiré du groupe Ideal G et du titre Hardcore. Il y a en 2007 Mauvaise foi nocturne.
Bah, parce que va me la rembourser ça. Allez, faut que tu lui parles, gros.
J'ai la chair blanche.
Bah, ouvre la boîte à gants alors.
J'aurais pas dû tenter les fruits de mer dans le cocktail.
Alors c'est bon, ça va là, t'es calmé, tu vas la fermer ta gueule.
Parodie de Confession nocturne de Diams et Vita. Aujourd'hui, vous écoutez un peu de rap ?
Bien sûr.
Il y aurait d'autres parodies comme ça à faire ?
Il y a des morceaux qui sont tellement drôles parfois, c'est compliqué de les parodier, ils ont déjà fait le boulot. Non, mais il y a des trucs vachement bien. Moi, je suis méga, méga fan d'SCH, j'aime bien Will Renoir, plein de trucs que j'aime. Oui, si, bien sûr.
Mais vous avez remarqué, il y a beaucoup de rappeurs qui reviennent aujourd'hui. Il y a la comédie musicale de la haine qui revient, il y a NTM aussi, bien avec sûr, un film. Le 113, exactement, qui revient, Rimka, enfin, il y en a pas mal comme ça qui reviennent.
Ben, c'est
de notre génération, ben, d'ailleurs.
Si c'était valable avec la notoriété, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aussi avec le rap, qui est la variété de certains.
Vos enfants écoutent le rap, du rap ?
Ouais, ma fille a 13 ans. Oui, c'est sûr que Bande Organisée, je crois que je connais les paroles, en tout cas des 5 premières minutes. Ouais.
Mickaël Youn, c'est donc la télé, les disques, voilà. Le cinéma, La Beuse, Les 11 Commandements, Is No Good, Héros comme un chef, La Traversée, Rendez-vous chez les Malawa, Carbone, je peux pas tous les citer, hein. Ça c'est devant la caméra, mais vous passez par derrière aussi.
Je commente pas.
Je l'ai fait exprès.
Oui, vous avez laissé exprès le petit silence. Mais là, celui-là, il était gênant pour le coup, c'est pour ça que j'ai parlé.
Vous réalisez Fatal en 2010, Vive la France en 2013, Téléportation. On est en 2020, on découvre la bande-annonce de votre nouvelle réalisation au cinéma.
Le mariage pour la vie, ça marche pas.
La preuve par l'exemple.
Ikea.
Ikea ? Le paradis du couple.
Au contraire, ici c'est le purgatoire de la vie conjugale. Regarde.
Eh ben moi je te dis qu'elle est trop grosse cette table et qu'elle rentrera pas dans la voiture.
T'as bien réussi à rentrer toi ?
Très drôle.
Mais c'est Grunthal, pas Grunval. Grunthal, c'est un vase. Tu croyais vraiment que j'allais mettre un balai à chiottes sur la table du salon ? Merde alors.
Vous dites que vous êtes...
C'est ma mère.
Ah, c'est votre mère ?
C'est ma mère, ouais. Et c'est mon père qui joue aussi dans la scène.
D'accord, et elle dit Grunval et moi je m'appelle Grunwald.
Eh oui, mais c'est
dingue.
Mais oui, vous avez un point commun avec Ikea, alors.
Vous dites que vous vous êtes inspiré de votre rupture pour ce film. Vous avez discuté aussi avec pas mal de vos potes à ce sujet. Vous dites que ce film a été un exutoire facile. Pourquoi un exutoire ?
Parce que c'est formidable de pouvoir s'exprimer... aussi librement que dans la création. C'est un plombier quand il est malheureux dans sa vie amoureuse, et ce qui fait mieux les
les soudures, j'essayais de trouver une image avec le plombier, puis je me suis rendu compte que je connaissais pas très très bien le monde de la plomberie. Bref, est-ce qu'ils siphonnent mieux? Non, au contraire, ils siphonnent moins bien. Et alors que nous,
on sait pas ça.
Ah si, parce qu'il est préoccupé et il n'est pas concentré sur son boulot. Nous, on a la chance, les saltimbanques, de pouvoir exprimer nos problèmes, nos malheurs, nos peines, les sublimer et d'en faire quelque chose de créatif et donc de positif.
Le divorce, c'est un prétexte dans le film qui parle aussi du lâcher prise. Vous dites que vous êtes un gars sensible, trop susceptible, limite parano. Lâcher prise, c'est pas facile alors?
Oui. Vous voyez bien que le gars est, est pas tout seul. Ils sont beaucoup à l'étage quand même. Il y a le parano, il y a le susceptible, il y a le sensible, il y a celui qui est grande gueule, il y a celui qui aime vanner les autres mais qui veut pas qu'on le vanne. Non, mais je suis rempli de contradictions. C'est très bizarre de faire de l'humour quand on est susceptible parce que. Mais je m'aperçois que je suis pas le seul parce que j'ai beaucoup de camarades, en particulier à Radio France. Je me suis rendu compte quand même qu'il y en a beaucoup qui font des vannes, qui passent leur temps à brocarder les autres et dès qu'ils arrive un petit malheur, ça vient chouiner sur les plateaux de télévision. Donc je suis ravi de voir que je suis passé avant tout ce monde-là et que moi maintenant je me soigne. Voilà.
Non mais je vous dis ça parce qu'effectivement c'est ce que j'avais vu aussi dans une interview, c'est que vous expliquiez que quand on vous disait quelque chose, bah vous y pensiez. Enfin, en fait, vous savez quoi, je vous pose cette question parce que je suis pareil.
Ben oui, mais on l'est tous en fait.
C'est chiant.
C'est de penser qu'on est différent qui est une erreur.
Mais c'est chiant.
De quoi?
Bah justement d'être touché comme ça en permanence. Et je me rappelle moi des passages. J'avais été franchement, vous m'aviez touché. Je sais pas quel souvenir vous en avez gardé, mais je me rappelle quand vous aviez été invité par Marc-Olivier Fogiel ou à l'époque chez Laurent Ruquier. Ouais. Vous avez quitté le plateau, vous êtes énervé et en fait sur votre visage, on sent une espèce de fragilité. C'est touchant en fait.
Ben un clown, faut pas lui retirer son nez rouge, sinon c'est plus un clown. Donc à partir du moment où on m'invite en tant que clown et qu'à un moment on me retire mon nez et semble demander, c'est plus difficile. Mais ça y est, maintenant c'est devenu constitutif ces moments-là. C'est-à-dire que je ne les vis plus comme quelque chose de douloureux ou d'honteux ou de triste. J'ai conscience que ça m'a aidé aussi à me construire et à être devant vous aujourd'hui plus détendu, plus serein, parce que je me suis pris les baffes aussi.
Vous vous prenez moins la tête aujourd'hui?
Bah j'espère.
Dans le rétro, Mickaël Youn, on va poursuivre notre voyage sur France Bleu.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. Falling in love, maybe for the first time.
week-end sur France Bleu. On embarque pour un voyage spatio-temporel. Aujourd'hui, nous sommes avec Michael Youn à l'affiche de la comédie C'est le monde à l'envers. Fierté pour France Bleu d'être partenaire de ce film. À ses côtés, Barbara Schulz, Valérie Bonneton, Eric Elmosnino, Yannick Noah et François Berléon. Vers quoi on court? C'est une des questions de ce film. C'est au cinéma en ce moment. Michael Youn, on se retrouve dans un instant. C'est dans le rétro sur France Bleu.
France Bleu, partenaire de la Star Academy.
Célèbre des académies rouvre les portes de son château pour une nouvelle saison. Suivez le quotidien des élèves au rythme des cours et rendez-vous chaque semaine pour les primes présentés par Nikos Aliagas. La Star Academy, c'est ce soir à 21h10 sur TF1.
Avec France Bleu.
Savoir sur Act for Food avec Carrefour. Parce que les consommateurs veulent plus de goût, de qualité et mieux manger, Carrefour relance son programme Act for Food. Corinne Dobby, directrice marketing des produits Carrefour, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi ce programme?
Eh bien chez Carrefour, on pense qu'on a tous droit au meilleur prix. Mm-hmm. Act for Food reflète cet engagement pour une alimentation de qualité et c'est pourquoi nos produits respectent des normes élevées en termes de composition.
Comment ça marche exactement?
Alors on fait tester nos produits Carrefour par les consommateurs et on les retravaille si nécessaire. Mm-hmm. Par exemple, nos yaourts brassés aux fruits Carrefour classiques sont fabriqués en France avec du lait français, sans colorant artificiel et ils sont très bien notés par nos clients.
Parfait. Et Act for Food va plus loin aujourd'hui.
Oui, nous poursuivons l'amélioration continue de nos recettes avec moins de sucre, moins de sel, la suppression des substances controversées, tout en gardant des prix justes pour que le bien manger soit accessible à tous.
Merci Corinne.
Merci.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Act for Food, des actions concrètes pour mieux manger.
Parce que la vie n'a pas de prix, la chaîne de l'espoir se bat depuis plus de 25 ans pour le droit à la santé des enfants de pays défavorisés. Notre pari sur l'avenir devient une réalité. Mais il reste beaucoup à faire. Parce que les enfants sont notre avenir. Vous pouvez faire un leg ou transmettre une assurance vie à la chaîne de l'espoir. Ensemble, agissons pour que notre investissement pour la vie soit une victoire.
Demandez notre brochure sur chaînedelespoir.org ou au 01 44 12 66 80. 01 44 12 66 80. Prix d'un appel local.
Actu locale, musique et bonne humeur.
C'est ici, sur France Bleu.
13h-14h dans le rétro, notre invité aujourd'hui c'est Michael Youn.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunwald.
Alors je crois
je cherche un jeu de mots, excusez-moi Déborah.
Allez-y.
Depuis tout à l'heure, je cherche un jeu de mots ou une blague sur Dans le rétro et je ne trouve pas. Peut-être qu'on vous en a déjà faite.
Non.
Non.
Mais je suis nulle pour retenir les blagues en plus.
Je vais essayer de trouver d'ici la fin de l'émission.
Ah ouais, j'aimerais bien.
Ouais.
Michael Youn, je crois savoir qu'au cinéma, on vous propose beaucoup de scénarios de comédie romantique. C'est quoi le romantisme pour vous?
Waouh, alors là, vous mettez les pieds dans un truc. Est-ce que je me demande si...
Bon, pourquoi je mets les pieds dans un truc?
Bah parce que c'est... Il n'y a rien de plus difficile que la vie à deux. C'est tellement dur. C'est le truc, mes parents m'avaient pas prévenu. Mes parents sont mariés depuis 1968. Et ils m'ont menti en me disant, ah, l'amour. C'est hyper difficile. C'est plus difficile de vivre à deux que de vivre avec des enfants. C'est plus difficile de continuer ensemble que de se réconcilier avec son voisin à qui on a tiré un coup de fusil de chasse. C'est très, très difficile.
Qu'est-ce qui la rend difficile?
Tout. C'est tout. C'est le quotidien, évidemment. C'est la routine. Vous rencontrez quelqu'un à 20 ans plus tard, c'est impossible d'avoir les mêmes rêves encore. Alors si, c'est possible, mais c'est difficile quand on ne les a plus. Vraiment, c'est... Je vais écrire un film là-dessus.
On n'évolue pas forcément au même rythme en plus.
Oui, et puis c'est compliqué d'admirer quelqu'un pendant toutes ces années. D'être admirable aussi, d'être admirable aux yeux de quelqu'un, ça veut dire de jamais faire de fautes, ou en tout cas d'être capable de les pardonner. Enfin, tout est valable, y compris son contraire.
Mais, vous parlez de la vie à deux et je vous demandais ce qu'était le romantisme.
Bah parce que le romantisme, c'est pas de séduire. C'est pas d'être fleur bleue, d'être fleur France bleue dans le rétro.
Non, ça n'a pas marché.
Non. C'est pas d'être fleur bleue les 6 premiers mois. Le romantisme, c'est de continuer à aimer son conjoint ou sa conjointe pendant 20 ans et de le regarder avec toujours les mêmes yeux remplis de d'émotions et les papillons dans le ventre. Et ça, donc, mais le romantisme à la base, si on s'en prend à la
littérature.
À la littérature. littérature, le romantisme fait mal. Chateaubriand, Victor Hugo, ils ont écrit sur la douleur d'être loin, la douleur d'aimer, souvent celle qui s'éloigne ou qui est avec un autre, c'est l'impossibilité. Le romantisme, c'est l'impossibilité d'aimer.
C'est du masochisme.
Voilà. Mmh. Donc en fait, c'est quoi le romantisme ? Eh ben, ça fait mal. Voilà, c'est tout.
Téléportation. Dernière escale de notre voyage dans le temps. Nous sommes en 2023, on allume la télé, sur TF1, on découvre la bande-annonce de Super Papa.
Si j'ai ce pouvoir d'entendre les pensées des ados, c'est pour aider mon fils.
Comme Superman ?
Comme Super Papa.
Super Papa a le pouvoir d'entendre ce que pensent les ados. Vous qui êtes papa, vous aimeriez avoir ce pouvoir ?
Bah non, surtout pas. Non, non, quel enfer.
Ah ouais, moi j'aurais dit oui.
Déjà, pour entendre des trucs comme ça toute la journée, wesh, t'as vu, il m'a pas répondu en DM, wesh.
Le wesh.
Non, c'est interdit. C'est
le
interdit.
Le wesh.
Ma fille, dès qu'elle dit wesh, je lui confisque son téléphone pendant au moins une heure.
Wesh, papa, rends-le-moi.
Ouais, frère. Je suis pas ton frère, je suis ton père, déjà, tu commences. C'est ce qui est fou, c'est que même moi qui suis a priori un papa cool, je suis pas un papa cool, du tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. Après, moi, c'est pas très étonnant. J'ai quand même beaucoup de mal à faire preuve d'autorité, pour pas dire d'autoritarisme, évidemment, mais d'autorité avec mes enfants, parce qu'il suffit, ils ont des réponses toutes faites. J'ai l'impression que le grand de 23 a dit à la fille de 13, qui depuis a dit au fils de 5, regarde les DVD de papa, là, les 11 commandements, ces trucs-là. Dès qu'il te dit un truc un peu désagréable, tu fais, papa, tu peux m'expliquer pourquoi tu prenais du Viagra pour aller faire du roller? Tu peux m'expliquer pourquoi t'as rempli une maison de piscine, d'eau pour en faire une piscine, enfin bref.
Et bah qu'est-ce que vous dites quand ils vous disent
mais
ça?
Mais je ne peux rien dire. Quand on, c'est comme si je sortais de garde à vue et que je devais lui dire, dis donc, il faut que tu respectes la loi, ça n'est pas possible. Donc je ne suis pas crédible. Donc je laisse ça à Isabelle, la mère de mes enfants. Et puis moi, bah, je continue à jouer au foot, aux jeux vidéo avec eux et à leur dire des conneries.
Des trucs cool.
Bah oui, je suis désolé, je suis malhonnête.
Ah bah sympa.
Bah ouais. Mais elle le reproche assez souvent. Elle me dit, ah, pourquoi c'est toujours moi qui ai le mauvais rôle? J'ai dit, bah parce que moi, j'ai fait les 11 commandements. C'est pas de ma faute.
Les relations parents-ados, ça peut être compliqué. Comment vous gérez, vous, cette période? Parce qu'on a envie de discuter avec eux, on a envie de leur parler, de les aider, de les apprendre à grandir bien, tant qu'à faire.
Déjà, j'ai abandonné un truc obligatoire, ouais. C'est les devoirs. Ça, c'est impossible de continuer à s'entendre avec ses enfants quand on s'occupe des devoirs. Parce que ça stigmatise toutes les tensions, tous les problèmes, et tout vient sur cette équation à deux inconnus que tu n'arrives pas. C'est pourtant facile, non? Merde! Tu fais exprès! Ah ça, quand il s'agit des réseaux sociaux, ça, oui, hein. Bref, j'imite toujours ma mère dès que je m'énerve. Donc ça, faut abandonner. Non, et puis il faut essayer de discuter dans les moments qui ne sont pas conflictuels. En fait, il faut être capable de retenir les moments où on s'engueule quand on ne s'engueule pas.
Ouais, c'est
voilà.
Ça.
Voilà.
Michael Youn, on termine ce voyage avec un peu de musique. This is the
end. Mon film préféré. Beautiful friend. Qui c'est, Les Doors? Non, Apocalypse Now. Parce que Les Doors, c'est bien aussi. Hein.
Ouais. The Doors, The End. Jim Morrison du groupe raconta un jour « Un enfant aveugle m'a demandé comment était le soleil. Je lui ai décrit. Il m'a demandé comment était la mer. Je lui ai décrite. Il m'a demandé comment était le monde. Là, en pleurant, je le lui ai inventé. » Si vous deviez raconter le monde aujourd'hui, Michael Youn, qu'est-ce que vous diriez ?
La vache.
C'est dur ?
Ben oui.
C'est parce que j'ai pris un ton solennel.
Non, non, mais
ça,
c'est non parce que c'est une question très intéressante. Ce serait de bonne aloi, Michael, de donner une réponse intéressante à une aussi belle question. Vous pensez bien que si Dante a mis 1200 pages à essayer de décrire nos rapports, j'ai pas réussi à vous résumer ça en une phrase. Je crois que le monde, il n'a pas besoin d'être décrit. Il faut essayer de le vivre le mieux possible parce que l'expérience est incroyable et que de toute façon, c'est la seule expérience qu'on aura, c'est celle-là. C'est pas la peine d'essayer d'en avoir une autre. Notre expérience, c'est ce passage sur cette terre et essayer de faire le maximum de bien, voilà, et le moins de mal, en tout cas.
C'est un peu ce qu'on retrouve dans le film actuellement au cinéma, Michael Youn, dans le film de Nicolas Vanier, c'est Le Monde à l'envers. À un moment donné, il y a Yannick Noah qui demande à Barbara Schulz : on a tout pour être heureux ici, et toi, tu es heureuse ? Elle répond : je ne sais pas. J'ai pas eu le temps de me poser la question. Est-ce que vous, Michael Youn, vous avez eu le temps de vous poser cette question ?
Je me la pose tous les jours. Il y a des jours où je vous répondrai clairement, je ne le suis pas. J'avance, petit à petit. En tout cas, je suis plus heureux aujourd'hui qu'hier. Et cette émission m'a rempli de bonheur. Donc, merci beaucoup, Déborah.
Merci, Mickaël Youn. C'est le monde à l'envers au cinéma en ce moment avec Eric Elmosnino, Barbara Schultz, Valérie Bonneton, Yannick Noah, François Berléon. Et donc, Mickaël Youn, c'est le climat qui se dérègle, l'économie qui s'effondre. Alors, dit comme ça, ça paraît tragique, mais c'est une comédie sociologique, authentique, et salvatrice et bienfaitrice. C'est un film qui questionne sans être moralisateur. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Prenez soin de vous. Salut.
À notre région. Ici, c'est France Bleu.
Il est 14h, vous écoutez France Bleu.